France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue à bord au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 exceptionnel car réalisé sur l'eau. Nous sommes au large de Nice. La ville accueille depuis ce matin des scientifiques du monde entier. Ils parlent de nos océans et de ce qui les menace.
On voit de plus en plus la mer se réchauffer, surtout en surface. On voit aussi par exemple des canicules marines. L'été dernier, on est arrivé à quasiment 30 degrés dans la rade de Villefranche. Des phénomènes de plus en plus extrêmes.
Des eaux plus chaudes qui s'appauvrissent en faune et en flore et qui à la surface se couvrent de gros bateaux. Alors faut-il continuer de recevoir ces paquebots?
Moi j'ai 30 employés, je ne vais pas la nourrir avec des cailloux. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent à Villefranche-sur-Mer et les paquebots, ça fait partie des gens qui viennent à Villefranche-sur-Mer.
Voilà quelques-unes des très nombreuses questions qui se posent à une semaine de l'ouverture ici de la conférence des Nations Unies pour l'océan. C'est une journée spéciale sur France Inter et nous allons parler de ces sujets avec nos invités, scientifiques, élus, pêcheurs et avec nos reportages ici en direct du large. Et avec vous Christelle Rebière en studio. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce mardi a commencé par MaPrimeRénov', mise en pause cet été jusqu'à la fin de l'année.
Oui, le gouvernement envisage sérieusement cette hypothèse, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique qui peine à trouver la bonne formule, coûte trop cher aux finances publiques. La mort de Naël à Nanterre il y a presque 2 ans, le policier qui avait tiré sur l'adolescent à bout portant sera jugé aux assises l'an prochain. 3 mois de prison ferme minimum pour toute agression envers un représentant de l'État. Gérald Darmanin tire à sa façon les leçons des violences après le sacre du PSG. Nous verrons si c'est faisable ou pas. Nous irons en Russie sous le choc après les attaques concertées de drones ukrainiens sur des bases aériennes. Et sur l'Etna, volcan le plus actif d'Europe, dont le réveil suscite autant de fascination que de frayeur chez les touristes.
Juste avant 14h, le regard du photographe, plongeur et biologiste Laurent Balesta. Il expose ici à Nice pendant 2 semaines. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure en mer avec nous.
France Inter.
Un gel en plein été.
C'est un navire océanographique de l'air qui nous accueille aujourd'hui en Méditerranée. Le Thétis 2, du nom d'une déesse grecque marine, la déesse Thétis, l'Ifremer. C'est l'Institut français de recherche dédié à la connaissance des océans qui dispose donc d'une flotte, 17 bateaux, dont celui-ci que vous commandez. Clément Schneider, bonjour.
Bonjour.
Merci
à tous.
Merci de nous accueillir. C'est la première fois qu'on réalise une émission de radio en direct depuis votre bateau.
Tout à fait, c'est la première fois. On a eu quelques reportages vidéo, mais pour la radio, pour moi, c'est une première.
Alors, on est au large de Villefranche. On va reculer vers l'arrière du bateau. Devant nous, Villefranche-sur-Mer, bateau de la Marine nationale, des yachts également de touristes présents ici. La particularité, Clément Schneider, c'est la profondeur, peut-être, sous nos pieds.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on est le long de la Côte d'Azur, hein, avec un dénivelé très important. On voit que là, juste sous nos pieds, on a plus de 300 mètres d'eau. Donc on a tout de suite des grandes profondeurs.
Les conditions idéales pour naviguer?
Pour naviguer en sécurité, exactement, mais également pour faire beaucoup de science et d'océanographie, parce qu'on a tout de suite une colonne d'eau très grande.
Alors, je voudrais qu'on comprenne précisément à quoi sert ce bateau. On va prendre l'escalier pour aller sur la partie arrière du Thétis 2. Il faut descendre face à l'escalier, c'est ça, Clément Schneider?
Oui, tout à fait.
Sinon, c'est dangereux.
C'est conseillé pour éviter les chutes. Hein. On voit bien que c'est très raide et que ça fait partie des nombreux dangers qui existent à bord de ce navire.
Et on n'est pas à l'abri d'un mouvement de houle. On se retrouve à l'arrière du bateau, la vue... sur Nice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on fait ici sur ce bateau et les engins que vous pouvez mettre à la mer?
Alors, sur le Thétis, comme sur les autres navires de la flotte océanographique française, nous accueillons des équipes scientifiques avec leur matériel. Notre rôle, nous, marins, c'est de mettre en œuvre ces appareils et de faire de la donnée, c'est-à-dire de récupérer toutes les mesures que l'on fait en direct pour ensuite qu'elles soient traitées au laboratoire et viennent alimenter des bases de données et expliquer des nouvelles situations comme le réchauffement climatique.
Voilà, ce sont des données qui sont utiles aux chercheurs qui ensuite vont les exploiter.
Exactement.
Des chercheurs qui prennent place à bord pour ces missions scientifiques. Quelques jours, vous êtes 7 à composer cet équipage. Tout est prévu pour partir quelques jours au large.
Tout à fait. L'autonomie du navire le permet. On peut accueillir à bord du Thétis pour plusieurs jours 8 scientifiques, hein, donc pour bien sûr le couchage, la restauration et tout ce qui va avec.
Mécanicien à bord, cuisinier aussi, filet de lieu jaune, je crois que c'était le plat servi tout à l'heure à la cantine. On parlait des scientifiques il y a un instant avec vous Clément Schneider, nous serons avec deux d'entre eux dans une quinzaine de minutes qui nous ont rejoints. Nous donnerons également la parole aux élus et aux pêcheurs qui sont des acteurs très importants évidemment, car l'objectif c'est de préserver les océans tout en faisant vivre les hommes qui peuplent les littoraux et qui sont de plus en plus nombreux. La dimension touristique aussi très importante ici sur la Côte d'Azur. Les yachts ont d'ailleurs été priés de quitter le port de Nice le temps du sommet sur les océans, mais ils restent nombreux, je vous l'ai dit, autour de nous et dans les environs. Avant de se retrouver ici au large, on va détailler toute l'actualité de ce mardi avec vous, Christelle Robière, et on parle notamment de MaPrimeRénov'.
Oui, un gel en plein été, c'est ce qui attend peut-être le dispositif de financement de rénovation de nos logements dans le contexte budgétaire extrêmement tendu du moment. Avant même de discuter des 40 milliards d'euros à trouver dans le prochain budget, le guichet MaPrimeRénov' pourrait être mis en attente. Dernier rebondissement pour un système qui n'en finit pas de changer. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Une fermeture momentanée donc à laquelle réfléchissent très sérieusement Bercy et le ministère du Logement. Et
oui, même si rien ne sera tranché avant début juillet, une réflexion est en cours, nous dit-on, sur la pertinence de, je cite, mettre sur pause momentanément MaPrimeRénov'. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a depuis le début de l'année un afflux de demandes sur la rénovation dite d'ampleur, ces rénovations d'ensemble très vertueuses écologiquement parlant mais qui coûtent cher, peut-être d'ailleurs un peu trop cher, estime le ministère du Logement mais aussi Bercy, où l'on parle d'un emballement du dispositif doublé d'un effet d'aubaine, d'un risque de fraude accru malgré les efforts déployés pour la contrer avec des intermédiaires ou des artisans aux devis peut-être surévalués. Dans un contexte budgétaire contraint, il est logique de regarder ce qui se passe, explique-t-on, et même peut-être d'envisager que les engagements pris pour 2025 soient réexaminés.
Et ça coûte à peu près 2,6 milliards d'euros à l'État chaque année.
Exactement, le budget de MaPrimeRénov'.
Bon, en tout cas, c'est un véritable séisme pour le secteur.
Oui, pour le secteur et ces milliers de ménages engagés dans un processus de rénovation de leur logement. On a beaucoup dit, et le gouvernement en première ligne, que c'était un pilier de la transition énergétique de notre pays. On attend depuis des années que la courbe de ces fameuses rénovations globales monte. La ministre du Logement, Valérie Létard, avait même promis l'hiver dernier que s'il le fallait, le gouvernement remettrait de l'argent en fin d'année. Les artisans, par la voix de la CAPEB, sont très inquiets, appellent à la plus grande vigilance sur la fraude, mais refusent l'idée d'une mise en stand-by d'un dispositif de subvention essentiel et qui a déjà trop bougé selon eux. Verdict donc sur ce dossier dans quelques semaines.
Claire Chaudière, on parlait de fraude, il y en a aussi en amont avec les diagnostics énergétiques de nos logements devenus obligatoires. La Cour des comptes recommande ce matin d'instaurer à l'avenir une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs, en plus de leur certification, histoire de fiabiliser leurs résultats. La mort du jeune Naël à Nanterre sur un contrôle routier, c'était le 27 juin 2023, point de départ de plusieurs nuits d'émeutes. Près de deux ans après, on apprend ce matin que le policier auteur du tir à bout portant sera jugé pour meurtre aux assises l'année prochaine, ce sera à Nanterre. La fête a parfois viré à la violence, débordements, saccages, confrontations avec les forces de l'ordre après le sacre du PSG. Un mort à Paris, quatre blessés dont un grave à Grenoble. Une famille fauchée par une voiture. À Coutances, dans la Manche, un policier a été gravement blessé à l'œil par un pétard. Plus de 650 interpellations en tout. Ce matin, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, entend durcir les peines encourues, en particulier pour les violences contre les forces de l'ordre et les destructions de biens. Il réclame sur X la suppression des aménagements de peine, du sursis et la mise en place d'une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue. Mais qu'en pensent les députés ? Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
En direct de l'Assemblée nationale pour France Inter, ce nouveau tour de vis suscite des réactions mitigées au sein du socle commun.
Oui, face à la violence, il faut frapper fort. Le député macroniste Mathieu Lefèvre applaudit la fermeté affichée par Gérald Darmanin. Pour lui, il faut durcir les réponses pénales. Il est persuadé aussi que le garde des Sceaux répond à une attente des Français.
Gérald Darmanin, il n'est pas dans l'inaction, il n'est pas dans le commentaire. Il veut faire avancer son pays et il regarde la télé comme tous les Français et il voit qu'il y a des jeunes qui ont des condamnations qui sont dérisoires par rapport à ce qu'ils ont fait. Et moi, je me réjouis qu'on ait un garde des Sceaux qui essaie de prendre les choses en main plutôt que de regarder passer les trains.
Même son de cloche du côté de la députée Horizon Naïma Moutchou, elle estime qu'un ministre n'est pas là pour faire des constats, mais pour proposer.
Ce que met le ministre de la Justice aujourd'hui dans le débat est intéressant. Faut pas se priver d'en parler. Après, ça veut pas dire que ce sont de bonnes solutions qu'il faudra mettre en œuvre, mais il faut au moins qu'on puisse en discuter. Moi, je suis favorable, par exemple, à l'instauration de peine minimale dans le code pénal.
Un débat, pourquoi pas, répond un proche de François Bayrou, mais il explique que le Premier ministre a deux critères et ils ne sont pas remplis. Le premier, le réalisme. Il prend l'exemple de la suppression du sursis, sauf qu'il n'y a plus de place dans les prisons, souligne-t-il. Le second, l'efficacité. Là, il rappelle que le calendrier parlementaire est très chargé. Une loi, selon lui, pourrait au mieux être examinée en 2026. Gérald Darmanin clive au sein du socle gouvernemental. Des députés macronistes, Modem, Horizon déplorent une surcommunication. À l'inverse, un député LR qui le soutient rappelle que le ministre de la Justice a des ambitions pour la présidentielle et dit-il, pour exister, il faut envoyer régulièrement des cartes postales aux Français.
Sonia Gobry en direct de l'Assemblée avec les moyens techniques de Florent Bujon. Gérald Darmanin, en fait, reprend des propositions qu'il avait formulées il y a quelques semaines. Il faut que les magistrats, dit-il, puissent juger ces faits en disposant d'une échelle de peine ferme, simple et réellement adaptée à la délinquance d'aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Christelle.
Alors, il y a l'intention et il y a ce que dit le droit. 3 mois de prison ferme minimum pour toute agression contre un représentant de l'État, est-ce possible ?
Alors, difficilement si l'on s'en tient à la proposition ferme du ministre, c'est-à-dire une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue. Il y a un risque d'inconstitutionnalité, relève Nicolas Hervieux, avocat spécialisé en droit public et enseignant à Sciences Po.
Il n'est pas du tout certain que le Conseil constitutionnel puisse valider ce mécanisme, mais quand bien même il le validerait, les circonstances particulières propres aux personnes justifieraient d'autant plus qu'on écarte l'application de la peine plancher pour des personnes qui n'ont commis aucune infraction auparavant. Donc il est très probable que si d'aventure le Conseil constitutionnel admettait une telle idée, ce qui n'est pas le plus probable, n'est pas impossible non plus, en tout état de cause, l'application concrète de ces peines planchers systématiques dès les premiers faits serait très douteuse en pratique au nom des principes constitutionnels que l'on connaît parfaitement.
Et Gérald Darmanin indique ce matin également vouloir garantir ainsi l'indépendance des magistrats dans ce message où, paradoxalement, il commente les décisions de justice rendues hier dont il estime qu'elles ne sont pas à la hauteur.
Jean-Philippe Deniaud, quant au mineur de 17 ans tué à Dax à coups de couteau lors des célébrations du sacre du PSG, il avait un contentieux personnel avec son meurtrier présumé qui lui avait volé une casquette. Précision ce matin du parquet de Dax. Journée spéciale Océan sur France Inter et nous retrouverons dans quelques minutes Jérôme Cadet à Nice sur un bateau de l'Ifremer. Mais l'enjeu de la conférence des Nations Unies qui se tiendra là-bas à partir du 9 juin est considéré comme capital et urgent. Les accords de Nice devraient être aussi importants que les accords de Paris pour le climat, disait ce matin sur France Inter l'ambassadeur pour les océans Olivier Poivre d'Arvor. Et il y a eu urgence à sauver et à protéger ce poumon de la planète. La France est en première ligne. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
D'après le réseau Action Climat, entre cyclones, sécheresses et recul du trait de côte, les territoires ultramarins sont les plus exposés au changement climatique.
Oui, ce rapport publié ce matin compile les connaissances scientifiques sur les effets du réchauffement dans ces 11 territoires ultramarins. L'association montre leur exposition plus forte aux sécheresses, aux cyclones plus intenses avec un réchauffement à plus de 2 degrés en hausse de 13% pour les catégories 4 ou 5 les plus élevées. Un territoire exposé aussi à l'élévation du niveau de la mer qui pourrait déstabiliser l'économie guadeloupéenne, par exemple, explique Benjamin Crétenant du réseau Action Climat.
On a certaines zones de Pointe-à-Pitre qui pourraient être submergées jusqu'à un jour sur deux par an d'ici la fin du siècle. Le problème, c'est qu'on a effectivement beaucoup d'activités qui sont concentrées sur ce bord de mer et qui sont donc difficiles à relocaliser. En dehors de la Guyane, tous les territoires sont des îles. C'est un risque qui concerne vraiment l'ensemble des territoires d'outre-mer.
C'est d'ailleurs à Miquelon qu'un village, le premier en France, doit être déplacé à 1,5 km de la côte. Autre enjeu, l'accès à l'eau potable. Une habitante de La Réunion témoigne du tarissement de certains cours d'eau de son enfant dans le rapport. Rapport qui dénonce la vétusté du réseau de distribution et qui pointe la fragilité de populations plus pauvres qu'en métropole.
On a beaucoup de territoires qui ont des difficultés économiques. Les inégalités limitent les capacités individuelles pour s'adapter au changement climatique. Les plus démunis sont beaucoup plus vulnérables. Ils ont des logements qui sont moins bien isolés face à la chaleur, qui sont moins solides face aux cyclones. Ce facteur socio-économique, il est essentiel pour comprendre ce qui fait que les territoires d'outre-mer sont plus exposés au changement climatique.
Le réseau Action Climat appelle à y adapter l'aménagement urbain et évidemment à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Et sachez aussi qu'Emmanuel Macron participera le 10 juin à une émission spéciale spécial sur France 2, Urgence Océan. Trafic quasiment normal demain et jeudi à la SNCF, malgré l'appel à la grève des conducteurs lancé par la CGT. De légères perturbations en région et sur les RER B et D en région parisienne. D'après le ministre des Transports, les cheminots réclament une amélioration de leurs primes. Les premières réponses sur Parcoursup, les deux tiers des lycéens ont reçu au moins une proposition d'admission sur la plateforme d'inscription post-bac. Ils vont continuer à recevoir des réponses jusqu'au 10 juillet. Les listes d'attente évoluent vite. Il faut donc consulter régulièrement le site. À l'étranger, la Russie digère l'affront que lui a infligé l'Ukraine avec cette attaque coordonnée de drones contre des bases aériennes un peu partout dans le pays. L'opération soigneusement préparée était baptisée Toile d'araignée. Le silence du Kremlin depuis est finalement assez éloquent. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Christelle.
Correspondant de France Inter à Moscou, un silence qui cache le choc ressenti par la population russe.
Oui, clairement. Et depuis dimanche, les services de sécurité, surtout, sont sur les dents, multipliant les contrôles, les perquisitions. Sur l'autoroute qui relie Irkoutsk à Novosibirsk, hier, une longue file de camions s'est formée en raison des contrôles. C'est la chasse aux poids lourds. Le maire de Novosibirsk a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans sa ville, pourtant située à plus de 2000 km des frappes sur la base de Byelaya. Mais c'est un signe. La Sibérie, qui se croyait à l'abri des attaques ukrainiennes, vient de découvrir sa vulnérabilité. Et si le Kremlin n'a toujours pas commenté cet affront, quelques voix s'élèvent ici pour mettre en cause l'échec des forces de sécurité chez les blogueurs militaires ou quelques députés. La télévision publique n'a consacré que 40 secondes à ces attaques majeures. Et les services de sécurité ont eu beau annoncer quelques arrestations, les exécutants de ce plan semble bel et bien hors d'atteinte. D'après les éléments de l'enquête qui fuitent, le FSB est à la recherche d'un habitant de Tcherlabinsk, une grande ville industrielle située près de l'Oural. Cet Ukrainien, arrivé en Russie en 2018, naturalisé russe, aurait créé une entreprise de transport l'an dernier et acheté les camions qui ont servi à l'opération. Lui et sa femme ont disparu mystérieusement il y a quelques jours. Et suprême humiliation pour les services russes. Des médias ont découvert qu'ils ne cachaient même pas leur soutien à Kiev sur les réseaux sociaux.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, la Russie qui revendique ce matin la conquête d'un nouveau village dans la région ukrainienne de Soumy, proche de la frontière. Kiev redoute une offensive d'ampleur à suivre dans ce secteur. À Gaza, une fois de plus, la distribution de nourriture a viré au drame. La défense civile de Gaza annonce la mort d'au moins 27 personnes ce matin, plus de 90 blessés, victimes de tirs israéliens au nord-ouest de Rafah, des attaques qualifiées de crimes de guerre par les Nations Unies. L'écrivain a un prix Goncourt, Kamel Daoud, peut-il se rendre en Italie? Selon le Corriere della Sera, il sera invité mi-juin à présenter son dernier livre Ouris, mais le romancier franco-algérien envisage d'y renoncer, redoutant d'être arrêté, voire extradé en Algérie. Bonjour Bruno Duvic, en direct de Rome.
Bonjour.
Que sait-on de cette histoire, Bruno?
Alors, le livre de Kamel Daoud doit sortir le 17 juin en Italie et trois rendez-vous de promotion étaient déjà prévus à Milan, Pavie et Sorrente. Mais d'après le Corriere della Sera, le franco-algérien hésite à venir. En effet, un mandat d'arrêt émis par l'Algérie serait enregistré dans les fichiers de la police italienne. Daoud risquerait l'arrestation et l'extradition dans son pays d'origine. Information réservée, dit-on ce matin à Rome. L'écrivain, dans son livre, revient sur la décennie noire en Algérie. Il tombe sous le coup d'une loi menaçant de prison qui porte atteinte à l'image du pays. Alors, est-ce qu'il va renoncer à venir? Réponse de son éditrice Elisabeth Asgarbi.
J'ai parlé avec Daoud, il n'a renoncé à rien. En ce qui concerne l'arrestation, il y a un risque réel, mais j'ai confiance dans la réponse des autorités. La Constitution protège ceux qui sont persécutés pour des motifs politiques. C'est le cas de Daoud en ce moment. Ce serait une horreur qu'un écrivain soit arrêté en Italie à cause d'un roman. Je ne veux même pas y penser.
L'Italie, qui a de très bonnes relations avec l'Algérie, pourrait-elle donner son feu vert à l'arrestation et l'extradition si l'écrivain venait? L'affaire éclate à quelques heures de la visite d'Emmanuel Macron chez Giorgia Meloni à Rome.
Crise politique aux Pays-Bas, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders fait tomber la coalition déjà fragile. Son parti se retire du gouvernement. Il lui reproche de ne pas durcir assez rapidement sa politique envers les immigrés et les demandes d'asile. De nouvelles élections devront être organisées dans quelques mois. Une immense colonne de cendres, de gaz et de roches en Sicile, l'Etna, est entrée en éruption. Le cratère sud-est s'est effondré de manière extrêmement spectaculaire. Hélène d'Aragon, une haute savoyarde, championne d'Europe master de trail, était à seulement 1 km du sommet avec son compagnon au moment de l'explosion. Elle a eu la peur de sa vie.
Moi, j'étais gamin, enfin, j'ai cru mourir. On a vraiment eu la mort aux trousses. Vous voyez le nuage, vous vous retournez et vous voyez le nuage au-dessus de vous. On était dans le nuage. C'est pas comme sur les vidéos que vous voyez où les gens ils sont en dessous, en fait. Nous, on était dedans. Mon conjoint m'a regardé, il m'a dit « Cours, Hélène !» On a couru, je savais pas où aller. Je me retourne, je voyais vraiment le nuage noir qui arrivait sur nous. Mon conjoint, il voulait que je m'arrête et puis qu'on reste là tous les deux puis qu'on meure ensemble, quoi. Je suis allée jusqu'au bus. Il m'a couru après, je suis arrivée en larmes dans les bras d'un volcanologue. À un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés dans un bus, ils avaient le casque, mais rempli de cendres. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. J'ai jamais couru aussi vite que ça. Et pourtant, je suis athlète, je cours en montagne, mais alors là, je crois que ouais, j'ai battu mon record de vitesse. Hein.
Des propos recueillis par Estelle Romer, bien loin de là. Pas de frayeur pour la numéro 1 mondiale, Arina Sabalenka. On parle de tennis, évidemment. Elle rencontrait en quart de finale la chinoise Zheng Qiwen et elle a gagné en 2-7, 7-6, 6-3. Je sais que ce genre d'information vous intéresse, Jérôme Cadet, même si vous êtes bien loin de tout ça, sur un bateau de l'Ifremer au large de Nice.
Et bien loin de la Sicile aussi. Hein. C'est beaucoup plus calme qu'en Sicile. Aussi, on vous a écouté avec beaucoup d'attention. Christelle Robière, nous sommes toujours au large de Nice pour cette émission spéciale du 13-14 consacrée aux océans. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Il est... Comment dire
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, bougez plus.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention aux orages, 14 départements sont en vigilance orange.
Oui, alors du massif central aux régions de l'Est, en effet c'est instable avec des averses et des orages. Orages parfois forts hein, dès cet après-midi avec grêle et fortes rafales de vent de l'Auvergne vers le Lyonnais et le Jura. On a 9 départements en vigilance orange jusqu'en milieu de nuit prochaine, hein, soyez très prudents. Sur le sud-ouest, vigilance orange aussi pour 5 départements de l'ouest des Pyrénées vers le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. À partir de la soirée jusque dans la nuit, on attend des orages parfois forts, de la grêle et de fortes pluies, hein, des pluies intenses, bon, donc beaucoup de pluie en peu de temps. En Méditerranée, c'est beaucoup plus calme avec de belles éclaircies. Du nord-ouest à la frontière belge, du soleil, mais une perturbation circule tout de même sur les régions voisines de la Manche avec un peu de pluie. Température en hausse, alors plus douce à l'est, hein, comptez 16 à 20 degrés près de la Manche, mais 21 à 26 ailleurs et jusqu'à 25 à 32 de la Méditerranée aux Alpes, 26 à Nice et 32 pour Ajaccio.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Journée spéciale, l'océan peut-il nous sauver ?
Tout va bien à bord de Tétis 2. Tétis 2, c'est l'un des navires océanographiques de l'IFREMER, l'Institut français de recherche dédié à la connaissance des océans qui nous accueille aujourd'hui pour ce 13-14 spécial consacré aux océans, à une semaine de l'ouverture de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Et alors que les scientifiques du monde entier, moins les Américains, on va en reparler, ces scientifiques se réunissent à partir d'aujourd'hui. Nous sommes donc au large de Villefranche-sur-Mer en ce moment, sur ce navire, 25 mètres de long. Il mène des recherches scientifiques et nous sommes à l'arrière avec nos invités, nombreux, qui ont accepté d'embarquer avec nous. Ils en ont, il faut bien le dire, l'habitude. Bonjour Fabrice Pernet.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être là chez vous. Vous êtes chercheur en biologie marine à l'IFREMER. Quelle est votre spécialité, Fabrice Pernet ?
Alors moi, je travaille principalement sur l'impact du changement climatique sur les organismes marins, et en particulier ceux que l'on exploite, les filières, la conchyliculture, les huîtres et les moules.
Votre passion, c'est les huîtres, Fabrice.
On peut le dire comme ça.
On peut le dire comme ça. Et l'impact du réchauffement climatique sur ces huîtres, il y a énormément de choses à en dire, et vous allez nous en parler dans quelques minutes. À vos côtés, Clara Ulrich. Bonjour.
Oui, bonjour Jérôme.
Vous êtes chercheur en halieutique à l'IFREMER. L'halieutique, c'est quoi ? C'est la pêche ?
C'est ça. Donc l'halieutique, c'est un nom un peu barbare. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est quand je le dis. Moi-même, je ne savais pas avant de le devenir. Et donc, c'est la science de la gestion de la pêche. Donc c'est la science qui vient pour aider à atteindre cette pêche durable que tout le monde cherche, qui est en gros comment on fait pour se nourrir sans détruire l'océan qui produit les populations de poissons.
La pêche, c'est votre domaine. Denis Genovese, bonjour. Bonjour Denis.
Bonjour, m'entendez ?
Très bien. Vous êtes pêcheur, alors pas à Nice.
Oui. Non,
vous
Antibes.
Êtes pêcheur artisanal à Antibes.
Oui.
Quel type de bateau de pêche est-ce que vous avez, Denis ?
Petite pêche côtière, inférieure à 12 mètres, pêche artisanale.
Au filet ?
Au filet, à la ligne, oui.
Qu'est-ce que vous pêchez ici ?
La petite pêche côtière ne cible pas une espèce spécifiquement. Elle cible tout ce qu'elle peut capturer. Et quand vous voyez l'arrivée d'un pêcheur au port avec 25-30 kilos de poisson, si on commence à lui supprimer certaines espèces, le métier n'est plus viable. C'est sur la polyvalence des engins et sur le fait qu'on ait un libre accès à la ressource que notre activité perdure. Si on nous enlève telle ou telle espèce, le métier il est par terre. Quoi.
Voilà. C'est magnifique de travailler ici, c'est magnifique de pouvoir sortir en mer.
Oui, c'est superbe. En plus, on travaille très près du littoral puisque nous avons les fonds qui ont la même forme que les Alpes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateau continental. Le plateau continental, c'est une bande longue de 40 à 80 mètres qui n'est pas exploitable chez nous, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'engin traînant chez nous. Nous travaillons très près des côtes, nous avons l'avantage d'avoir nos clients qui nous voient en visuel de la route et qui nous téléphonent pour savoir ce qu'on va leur vendre une heure après. Donc on travaille très près, à proximité de nos ports, à proximité de nos familles et dans un cadre fabuleux.
Je salue également Richard Chemla, bonjour.
Bonjour.
Adjoint au maire de Nice, délégué à la transition écologique et énergétique. Nice qui accueille donc ce sommet de l'océan alors que nous sommes sur une mer. La mer Méditerranée, mais la mer et l'océan, c'est pas la même chose, Richard Chemla ?
Mais la mer Méditerranée appartient à l'océan, l'océan unique. Hein. On est sur ce bateau Tétis hein, qui a fait des recherches sur l'origine de la mer, l'origine des mers, l'origine de l'océan. Avant, il y avait un seul continent marin. Et après, donc, la géographie a fait que certaines mers se sont séparées des océans.
Et donc, on parle aujourd'hui d'un océan parce que les problématiques sont les mêmes ? Où que l'on soit sur le globe ?
Non, les problématiques ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on se réunit d'ailleurs avec des scientifiques. Uh-huh. Donc chaque mer, on pourrait dire presque chaque morceau de terre hein, et de mer a ses problématiques. Et l'ensemble, le changement climatique va justement percuter. Le meilleur exemple, c'est les villes littorales, hein, c'est les îles qui sont en avant-scène. Et chaque région a sa façon d'être impactée par le changement climatique. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre chaque région, chaque façon de faire pour s'adapter. L'adaptation est un des facteurs essentiels que nous apporte, que nous aide à surmonter les scientifiques.
Denis Genovese, on parle de l'appauvrissement de la ressource. Vous le constatez ? Il y a des poissons que vous ne pêchez plus aujourd'hui ?
Il y a les choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres que je suis beaucoup moins d'accord. Mon constat après 30 et quelques années de métier, c'est le déplacement du poisson. Le réchauffement climatique fait que les espèces, on les pêche de plus en plus profond. Elle refuse le littoral par rapport en particulier à la température de l'eau, par rapport aussi à des nuisances sonores et lumineuses. Je pense franchement que, parce que j'adore mon métier, que ça fait plusieurs dizaines d'années que j'en vis, que le poisson y est toujours. Il faut changer les moyens de capture, il faut changer beaucoup de choses. Mais dire que le poisson se raréfie, certaines espèces peut-être, du réchauffement, mais pas par l'impact de la pêche artisanale, en tout cas, ça c'est certain.
Voilà. On va donner la parole à Clara Ulrich sur ce point dans une minute. Je voudrais qu'on salue Sophie Becherel. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci de nous accompagner, d'avoir préparé cette journée spéciale sur Inter consacrée aux océans, chef du service santé environnement à Inter. On va vous suivre, chère Sophie, pas très loin d'ici, c'est juste en face. Villefranche-sur-Mer, alors vous y êtes allé par la route. À Villefranche-sur-Mer, on trouve l'une des plus anciennes stations de biologie marine, l'Institut de la mer, copiloté par le CNRS et Sorbonne Université. Particularité, on l'a dit avec Denis à l'instant, on atteint ici tout de suite de très grandes profondeurs, 900 mètres avec des courants particuliers qui longent ce littoral. C'est la raison pour laquelle on trouve ici une grande richesse de plancton étudiée depuis des décennies, Sophie.
La station marine de Villefranche-sur-Mer est connue dans le monde entier, du moins des biologistes qui étudient le plancton. Ingénieur de recherche et plongeur, Cyril Debost nous embarque à bord du Pelagia, un petit bateau de 6 mètres, direction le point B pour réaliser une collecte au filet, mais un filet aux mailles très serré, 65 microns.
Le plancton, c'est un organisme pélagique, c'est-à-dire sa vie au large. Ici, on l'a à peine sorti de la rade, c'est-à-dire à 5 minutes en bateau. Donc on a des organismes uniques ici qu'on va pas trouver ailleurs, ou en tout cas qu'on va avoir du mal à aller chercher. Il va falloir faire une campagne en mer, en haute mer. Là, à 5 minutes, on a du plancton. Donc on a des chercheurs du monde entier, de Stanford par exemple, ou autres, qui viennent ici pour aller chercher ces organismes.
Après 5 minutes donc, on coupe le moteur. L'ingénieur de recherche CNRS, Émilie Diamond-Riquier, jette le filet à plancton à l'eau. Il va y rester 10 minutes. Ensuite, il est remonté et les micro-organismes collectés sont transvasés dans une bouteille en verre pour être étudiés au laboratoire. À Villefranche, le plancton et son milieu sont étudiés depuis 1957.
Depuis, on fait des prélèvements toutes les semaines, des prélèvements d'eau, voir la qualité de l'eau au niveau des paramètres chimiques, c'est-à-dire, par exemple, si l'oxygène va varier, le taux d'oxygène, le pH, les nutriments. Et également, on va mettre à l'eau des sondes pour avoir des paramètres plus physiques, donc la température, la salinité.
Cela a permis de quantifier le réchauffement. Il affole Émilie Diamond-Riquier.
On voit de plus en plus la mer se réchauffer. Surtout en surface, mais même au fond, on a aussi un site d'études au large de Nice qui est étudié depuis la fin des années 80, début des années 90. Et là, même à 2400 mètres de profondeur, on voit une augmentation de la température. On voit aussi des phénomènes de plus en plus extrêmes, par exemple des canicules marines. L'été dernier, on est arrivé à quasiment 30 degrés dans la rade de Villefranche, qui est du jamais vu depuis qu'on étudie le point B.
Sophie, le suivi réalisé ici à Villefranche peut-il être reproduit sur tous les océans ?
Non, bien sûr, compte tenu de l'étendue des océans. C'est pourquoi, il y a 25 ans, un autre système a été mis en place, automatisé, le réseau Argo. Ce sont 4000 balises dérivantes. Au début, elles ne fournissaient que la température et la salinité de la mer, mais elles ont depuis peu été perfectionnées, ici à Villefranche-sur-Mer, par Hervé Claustre, chercheur au CNRS. Des paramètres biologiques ont été ajoutés, et même des images du plancton que l'intelligence artificielle trie grossièrement. Et c'est ainsi que l'on découvre que l'océan s'asphyxie.
On commence à documenter de manière plus précise les zones qui perdent de l'oxygène ou les zones qui s'acidifient plus rapidement que certaines autres.
Quelles sont les zones en danger ? On les identifie maintenant ?
On identifie un certain nombre de zones dans les zones tropicales de l'océan. Et ces zones tropicales, elles ont des difficultés parce que c'est très chaud en surface et très stratifié d'une certaine manière, à être renouvelé et à respirer d'une certaine manière avec le contact avec l'atmosphère.
Les chercheurs ne savent pas encore comment le plancton réagit à cette absence d'oxygène. En revanche, ils observent les conséquences sur les grands prédateurs que sont les thons. Dans leur migration, ils contournent désormais ces zones pour éviter de mourir, eux aussi asphyxiés.
Merci Sophie Becherel. On se retrouve ici au large, devant Villefranche. Juste un mot avant de venir sur l'acidification, sur le plancton, sur l'appauvrissement de la ressource, sur les canicules marines, il y a énormément de sujets. Les chercheurs américains, Sophie, ne sont pas là aujourd'hui et dans les prochains jours parce qu'ils étaient intéressés par venir ici.
Pas ceux des agences fédérales qui ont été empêchés. En revanche, il y a des universitaires, une centaine environ quand même.
Donc toujours une collaboration minimale.
Oui, et pour être franche, ce qu'espèrent les scientifiques français, c'est qu'on va enjamber la présidence de Donald Trump et que certains dégâts seront récupérés. C'est le cas pour les balises Argo, puisque 56% sont financés par les Américains et il va peut-être falloir prendre le relais le temps de cette présidence américaine.
Alors parmi les dégâts, le réchauffement, Fabrice Pernet, 30 degrés ici l'été dernier pour la température de l'eau. Quelles conséquences ça a, notamment sur les huîtres que vous étudiez ?
Alors le réchauffement en effet peut conduire à des épisodes de mortalité. L'histoire c'est que le réchauffement n'arrive pas seul. En même temps, vous l'avez dit, l'eau se réchauffe, l'eau s'acidifie et perd de son oxygène. Donc c'est ce que j'appelle moi la triple contrainte carbone sur les organismes marins qui les touchent. Et ce que l'on prévoit lorsqu'on expose ces animaux-là aux conditions futures, aux conditions attendues pour 2050, donc 2050 c'est demain, hein, c'est les exploitants d'aujourd'hui, eh bien ce que l'on observe c'est que les lagunes méditerranéennes typiquement ne pourront plus faire de l'élevage de moules par exemple. Et donc cet élevage de moules, il faudra le faire ailleurs, il faudra s'adapter. On prévoit une
perte. Les moules de Méditerranée dans 25 ans c'est fini.
En lagune, en tout cas, en zone côtière, c'est terminé. Il faudra aller en mer, au large, pour pouvoir continuer à en produire. Et puis pour les huîtres, ça sera aussi des baisses de rendement. Et on voit bien aujourd'hui que ces écosystèmes-là, ces milieux littoraux-là, que ce soit la lagune de Thau, par exemple, le bassin d'Arcachon, sont au bord aujourd'hui de points de bascule qui seront finalement sur lesquels on ne pourra pas revenir.
Parce qu'il y a des maladies se développent.
Ça, c'est le troisième effet qui se coule, on va dire, si on veut, d'une certaine manière. C'est qu'avec le réchauffement, en effet, les animaux sont plus vulnérables aux maladies qui pourraient émerger. On a vu le cas en 2008, on a eu une épizootie majeure, une maladie majeure sur les huîtres qui a décimé tous les stocks de naissins, juste comme ça, en un printemps, on a perdu 80% des stocks. Et maintenant, ça se produit année après année.
Il y a un mot qui a été prononcé, c'est acidification. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, acidification, ce qui se passe, c'est que quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, il a la fâcheuse tendance de ne pas y rester. L'océan capte une partie du CO2 que l'on émet, 25% à peu près.
Donc ça, c'est nos voitures, l'essence qu'on brûle, les industries, etc.
C'est notre vie quotidienne.
Notre vie quotidienne.
Exactement.
Ce CO2 se retrouve là, autour de nous, dans la mer ?
Ce CO2 se retrouve dissous dans la mer et le CO2 avec l'eau forme de l'acide, l'acide carbonique en fait, et diminue, augmente l'acidité de l'eau, diminue son pH. Et ce pH qui diminue, cette acidité qui augmente, a pour effet de grignoter, ronger les coquilles qui, elles, sont faites de calcaire. Autrement dit, un coquillage peut littéralement, dans une eau de mer très acidifiée, se dissoudre.
On viendra aux solutions avec vous qui peuvent peut-être exister pour pourquoi pas capter ce CO2 dans un instant. Fabrice Pernet, je voudrais qu'on donne la parole à Clara Ulrich parce que j'ai interrogé Denis Genovese il y a quelques minutes qui est pêcheur à Antibes, pêcheur artisanal, qui nous dit moi sur la ressource je suis partagé. Qu'est-ce qu'on constate sur l'évolution de la ressource autour de nous ici en mer Méditerranée ?
Alors oui, on constate beaucoup d'effets. C'est vrai que les effets du réchauffement climatique, on s'y intéresse depuis longtemps, mais on les documente de mieux en mieux. Là, on a eu beaucoup de recherches qui ont été faites ces derniers temps. Et donc, ce qu'on peut voir sur des poissons qui nous paraissent tout à fait communs dans nos assiettes, et on voit finalement plusieurs effets différents. Alors par exemple, on a beaucoup parlé des sardines qui deviennent un peu trop maigres. Le plancton est moins nourrissant.
Donc, la taille moyenne de la sardine s'est réduite.
Elles sont plus petites, elles sont surtout moins grasses. Et donc, une sardine moins grasse, c'est une sardine qu'on peut moins bien mettre dans une boîte de conserve. Elle se conserve justement moins bien. Et donc, ça veut dire que c'est toute l'industrie sardinière qui est chamboulée, non pas parce que la sardine a disparu, mais juste parce qu'elle est moins grasse. Donc ça, c'est quand même un premier exemple. Il y a d'autres exemples. Un autre exemple, le maquereau, que tout le monde connaît bien, le maquereau. Les grands enjeux aujourd'hui du maquereau, c'est que le maquereau a plutôt tendance à se déplacer un peu vers le nord. Et donc, il y a des conflits politiques assez majeurs entre l'Union européenne et puis la Norvège, par exemple l'Islande, qui tout d'un coup ont beaucoup plus de maquereau devant leur côte qu'ils ne l'avaient avant. Et donc, on commence à avoir des enjeux politiques de dire, maintenant le poisson, il est chez moi, je veux plus que ma part historique. Donc ça, c'est un autre exemple où on va mélanger les effets pêche et les effets réchauffement climatique. Et puis, on a aussi d'autres exemples. Par exemple, le hareng, on en a aussi beaucoup parlé, où là, on va plutôt dire le hareng, la sole, où c'est plutôt le pouvoir de reproduction. C'est-à-dire
qui est affecté,
c'est-à-dire la chance qu'un œuf, un poisson, ça pond des millions d'œufs et puis il y en a que très très peu qui survivent. Et là, la chance de survie peut être encore moindre parce que une petite larve, elle est pas très fragile, elle est fragile et elle aura peut-être pas ce qu'il lui faut pour survivre les quelques jours.
Denis Genovese, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez observé pendant le confinement il y a 5 ans ?
Oh, pendant le confinement, déjà, on a vu une évolution de nos captures parce que déjà il y avait beaucoup moins de chasseurs sous-marins, sinon plus de chasseurs sous-marins. Ça, sur le poulpe, on a vu une évolution monstrueuse. On a pris des poulpes comme on n'a jamais pris. Ensuite, j'ai vu, moi qui habite un peu dans l'arrière-pays, au bout de 10 jours, des écureuils de partout que j'avais plus vu depuis 30 ans dans ma campagne de Valbonne.
Et en mer,
les captures ont été différentes. Moins de nuisances, moins de bruit, moins de gens dans l'eau, moins de... Le littoral s'est repeuplé comme il y a peut-être 50, 60 ans en arrière. Il y avait beaucoup plus de poissons dans un mètre de fond.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Clara Ulrich ? Ça veut dire que si on limitait l'usage de la mer, derrière nous, on voit, je crois que c'est un jet ski qui passe au large, les poissons peut-être seraient plus nombreux assez rapidement ?
Alors oui, c'est souvent ça. Dans un milieu naturel, c'est souvent la quantité d'impact finalement qui va faire la différence entre est-ce que l'écosystème peut le supporter ou non. La surpêche, c'est exactement la même chose. On calcule ça sur un nombre total de poissons morts, donc cumulé sur tous les pays, tous les engins, toutes les zones. Et c'est dans nos calculs scientifiques, c'est avec ça qu'on va faire cette référence de est-ce qu'on est en surpêche ou pas. Donc c'est d'abord effectivement une question de quantité.
les associations de défense de l'environnement, à l'occasion de ce sommet sur l'océan de Nice, demandent l'interdiction de la pêche au chalut. Vous ne pêchez pas au chalut de Nice-Genovese, vous pêchez au filet. Mais la pêche au chalut, l'interdiction dans les aires marines protégées. Il y en a 565 en métropole et en outre-mer pour ce qui est de la France. Est-ce que vous, scientifique, Clara Ulrich, vous dites que c'est souhaitable d'interdire la pêche au chalut dans ces aires marines protégées ?
Alors sur ce sujet, les constats sont relativement clairs parce que donc d'un côté, les constats sur l'état de l'écosystème sont bien posés. On sait que l'écosystème marin se dégrade, les fonds marins sont en mauvais état pour ce qui sont suivis. On sait que le chalut est une activité qui est impactante. C'est bien documenté, c'est bien étudié. D'un autre côté, on sait aussi que le chalut, c'est une activité économique qui est assez structurante de la pêche française, mais aussi européenne. Hein. Tout ça, ça s'est développé après la guerre. Donc c'est vrai que les enjeux économiques sont indéniables.
Ça fait vivre beaucoup de gens, la pêche au chalut en France ?
C'est surtout que le chalut fait vivre alors, à la fois des pêcheurs, mais c'est surtout que ça apporte une certaine stabilité dans les approvisionnements, dans les marées, dans les marchés. Donc il y a énormément des filières, finalement, amont et aval, qui vont être dépendants d'une certaine stabilité des apports et qui est souvent apportée par les chaluts.
Donc la réponse est plutôt non, il ne faut pas l'interdire ?
J'ai pas dit qu'il fallait pas l'interdire, c'est que effectivement, si on interdit, c'est toujours des questions de transition, c'est-à-dire qu'on peut pas.
Comment on fait ?
Quand on a
pas
une activité voilà, qui existe depuis plusieurs années, et par contre, on sait que la pêche est quand même dans une phase de transition, les bateaux sont vieux, c'est une activité vieillissante et il est temps d'inventer la pêche de demain.
Sophie Becherel.
Pour information, les trois quarts de la pêche aujourd'hui, ce sont les petits bateaux, la pêche artisanale comme celui de
monsieur. Les trois quarts des bateaux ou les trois quarts
des pêcheurs ? Les trois quarts des bateaux. Or, les chalutiers récoltent 50% des aides.
Donc l'aide va plus aux gros bateaux qu'aux
pêcheurs artisanaux.
Un dernier mot, Denis Genovese, et puis je voudrais qu'on parle des paquebots.
Si je peux me permettre, l'appellation chalut est dangereuse parce que vous avez plusieurs catégories de chaluts. Vous avez le chalut qui prend 440 000 tonnes par an. Je ne donnerai pas de nom. Et vous avez le chalut de taille raisonnée qui nourrit son quartier, qui nourrit sa région, sans pour autant être une nuisance sur la mer Méditerranée ou sur les océans. Il faut arrêter de tout mettre dans le même pot, d'utiliser une appellation pour 50 catégories. Il y a des choses à régler, et il y a des choses à protéger. Et je pense que le nerf de la guerre, quand même, c'est d'arriver à faire manger nos peuples. Donc voilà, avant de prendre des mesures draconiennes, il serait bon d'étudier la question sur la nourriture et arrêter de tout favoriser pour qu'on bouffe des insectes, des vers et compagnie, qu'on en mette dans le pain, qu'on en mette dans tout. Il faut arrêter, on n'est pas des Chinois. Je vous remercie.
Il n'y a pas que vos bateaux, Denis Genovese. Ici, on a parlé de la pêche. Il y a d'autres bateaux. Il y a des paquebots aussi dans cette mer Méditerranée. Vous me rappeliez ce chiffre, Sophie, en préparant cette émission. 30% du trafic mondial de paquebots.
Du tourisme mondial est concentré en Méditerranée.
Alors le long des côtes grecques, italiennes, espagnoles, mais aussi françaises. Le président de la métropole de Nice, Christian Estrosi, a décidé il y a quelques mois de limiter le nombre de ces paquebots, ce qui a fait polémique durant tout le printemps. Finalement, un compromis a été trouvé. Les plus gros de ces paquebots, plus de 2500 passagers, vont être interdits en face de nous, ici, en rade de Villefranche. Qu'en pensent les acteurs du tourisme, les restaurateurs notamment ? Je me suis rendu hier soir précisément à Villefranche-sur-Mer où j'ai retrouvé le patron du restaurant Loubentry, Olivier Seigna, au bord de l'eau. Voilà comment il se présente.
Un pur niçois qui est installé à Villefranche-sur-Mer depuis une petite dizaine d'années. Et j'ai fait l'école hôtelière et j'essaie de vendre la cuisine niçoise à tous les touristes et tous les habitués, de leur faire découvrir les recettes de ma mère, de ma grand-mère.
Je vois qu'il y a du farci niçois, c'est la suggestion du soir, c'est ça ?
C'était la suggestion à midi, comme les restes un peu, on a décidé de faire découvrir aux touristes qui sont venus ce soir, ou à des locaux, parce qu'il y a beaucoup de locaux à Loubentry, les farcis niçois, donc vous savez ce que c'est les farcis
niçois ? Non, pas du tout, ça consiste en quoi ?
Ce sont des farcis donc de la farce des légumes qu'on a creusés, c'est-à-dire courgettes, poivrons, aubergines, oignons, avec du bœuf, du veau, de la chair à saucisse, qu'on fait rôtir au four. Servi sur un petit lit de mesclun. C'est une des spécialités niçoises qu'on est ravis de faire découvrir à tous les gens, parce que c'est important de transmettre. On n'est pas là éternellement, c'est important de transmettre et que les gens mangent local et découvrent certains mets que peut-être ailleurs n'existent pas.
Les paquebots, chaque année, les passagers qui descendent de ces paquebots.
C'est quand même 20% de mon chiffre d'affaires en parlant que de moi. Je comprends très bien qu'il faut faire attention à la planète. Mais ça fait manger beaucoup de gens, tous ces paquebots. Et en plus, les paquebots d'aujourd'hui ne sont plus du tout ceux d'avant. Ils sont vachement plus écologiques, ils font vachement plus attention. Enfin, je ne connais pas toutes les normes, il y a des gens beaucoup plus assermentés pour ça. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, les bateaux d'aujourd'hui, ce n'est pas les bateaux d'avant. Donc, ne pas avoir été concerté nous a mis à mal. On s'est regroupé, tous les commerçants. On a fait des grosses réunions parce que, bien sûr, que nous, on était en danger. On est revenu sur cette décision. Donc, la décision est plus sage. 2500 passagers maximum, je comprends très bien. Je vous disais, les autres étaient de mauvaise qualité. Nous, si vous voulez, le client, on ne prend pas avec comment il est habillé. Un client, c'est un client. Il n'y a pas de bateau low cost, pas low cost. Si on peut avoir que des bateaux de très bonne qualité, mais nous, on n'est pas dans cette situation. Vous voyez, là, aujourd'hui, on est le 2 juin. Vous voyez bien l'affluence, c'est bien, mais c'est pas la folie. Donc tout client est bon à gagner.
Vous vous dites jamais dans l'année, non mais là ça va pas, il y a trop de monde, il y a trop de bateaux, il y a trop de visiteurs.
Honnêtement non. Quand je vois comment ça se passe ailleurs, alors c'est sûr que Villefranche c'est un petit village, il faut faire attention, je comprends très bien, c'est vraiment ça. Hein. Mais à ce jour non, ça doit être contrôlé. Je comprends très très bien que ça doit être contrôlé. Avant il y avait 3 paquebots des fois. En même temps.
Dans la même journée.
Oui, ça pouvait faire 8-9 000 personnes qui descendent d'un coup. C'est plus que les habitants du village. Alors déjà, c'est pas très joli pour ceux qui sont... C'est vrai qu'il y a mieux. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de paquebot. Vous voyez que c'est magnifique. Le paquebot, c'est pas ça qui va rendre joli la rade. Hein, on est d'accord. Il faut que ça soit contrôlé, mais le plus dur à trouver dans la vie, c'est le juste milieu. Donc le juste milieu, je pense, a été trouvé. Maintenant, si on peut faire mieux, je serai toujours pour faire mieux. Je suis pour le bon de Villefranche et de la Côte d'Azur en général.
Olivier Seigna, restaurateur à Villefranche-sur-Mer et porte-voix de ses collègues, puisqu'on était tout près des tables avec vous. Vous parliez des Chinois, Denis Genovese, il y a une minute, les Chinois qui cuisinent parfaitement bien le poisson aussi. Je referme la parenthèse gastronomique. Réaction avec vous, Richard Chemla, adjoint au maire de Nice, délégué à la transition écologique et énergétique. Alors, cette décision de Christian Estrosi qui a beaucoup fait parler, finalement, vous vouliez aller plus loin, vous avez trouvé un compromis, on peut dire ça ?
Oui, je crois que c'est ce qu'on appelle la transition, la médiane. Ce restaurateur, il était plein de bon sens. Hein. Il a bien compris. Vous savez que c'est la première destination d'abord hein, de Français chez nous. Hein. 6,5 millions de touristes, 5 millions pour la ville de Nice par an. 40% de la vie économique est basée sur le tourisme. Donc il faut trouver une médiane, une solution. Première notion, c'était bien entendu d'en limiter l'arrivée. 2500 passagers, c'est quelque chose qui peut être absorbé hein, par la radio de Villefranche, 450 passagers par escale pour Nice. Donc vous voyez, ce sont maintenant des chiffres qui sont adaptés. On n'est pas dans le surtourisme. Il le dit lui-même, hein, c'est intéressant. Hein, ce restaurateur, je ne vois pas tous les jours des queues et des files d'attente à ma table. Je crois que,
quand il disait 9000 personnes qui, il y a quelques années, débarquaient,
C'est pour ça que Christian Estrosi a dit stop, ça suffit. Surtout qu'on rentre dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la santé environnementale. Hein. Ces bateaux, en plus, ils avaient des fumées nocives. Donc il faut choisir.
Mais parce qu'il nous dit, Olivier, et d'ailleurs de manière très honnête, il dit moi je crois que c'est mieux les bateaux aujourd'hui, mais je suis pas spécialiste. Vraiment améliorés sur les motorisations, sur la pollution.
Alors encore une fois intéressant, il faut travailler sur aujourd'hui sur l'accueil de ces bateaux. Il faut faire de l'éducation. Les compagnies en général sont en train de changer leur flotte. Hein. On pourra en reparler. On va arriver sur des bateaux qui sont de plus en plus adaptés, qui rejettent déjà plus de d'ordures. Hein. Ce sont des véritables usines à récupérer les déchets. Il nous reste encore la pollution par les fumées.
Donc c'est quoi la pollution? Qu'est-ce qui vous pose des problèmes, Richard Chemla ?
C'est surtout des particules fines. Hein, lorsque le bateau aujourd'hui ne jette plus l'ancre, donc c'est pas souvent l'ancre, hein, puisqu'ils sont sur un GPS, on a une sorte d'appareil qui permet de se maintenir en position fixe. Et pour ça, eh bien, ils font tourner leur moteur. Donc, en tout cas, pour la rade de Villefranche, pour Nice, on a la chance, on va électrifier les quais, c'est-à-dire qu'on aura zéro pollution. Le bateau arrive, on branche. Mais alors, j'insiste, c'est pas une simple prise qu'on branche, hein, c'est une prise qui est sur une grue. Hein, pour expliquer, c'est pour ça que les travaux sont longs et coûteux. Et à ce moment-là, vous aurez plus, bien sûr,
donc, des bateaux à motorisation électrique viendront ici.
Alors on n'en est pas encore. Ouais. On est motorisation électrique, je veux dire au niveau du quai. C'est-à-dire que lorsqu'on se branche, on arrive sur son poste, on se branche et tout le système du bateau devient électrique.
Première étape donc, les bateaux de plus de 2500 passagers ne peuvent plus débarquer. Il y aura une deuxième étape, vous voulez descendre la jauge peut-être, c'était l'objectif initial.
Moi je crois que ce qui est plus qu'important que la jauge, c'est l'éducation, la sensibilisation, c'est même ces touristes, leur expliquer qu'ils se comportent avec la nature. On travaille avec des associations par exemple qui montent à bord pour leur apprendre à laisser le moins de traces possible. Et puis aussi, c'est d'homogénéiser, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une métropole avec un haut et un moyen pays, c'est de ne pas rester forcément sur le littoral, mais faire, excusez-moi du mot, un package et qui permet de rester quelques jours, 3-4 jours ici sur le littoral et puis monter ensuite dans nos villages et nos villes du haut et du moyen pays qui sont exceptionnelles de nature et donc vous étalez aussi cet effort touristique.
arrière-pays qu'on aperçoit au loin, puisqu'on est maintenant au large de la promenade des Anglais. On est revenu devant la ville de Nice. Fabrice Pernet, le regard du chercheur en biologie marine à l'Ifremer que vous êtes sur ce trafic qui ne cesse d'augmenter, des touristes qui apprécient d'arriver ici dans ces paquebots de plus en plus gros.
Ben alors on peut les comprendre, mais voilà, le tourisme, les paquebots, c'est du CO2. Le CO2, c'est du réchauffement, c'est de l'acidification, c'est de la désoxygénation des océans. Et donc, il faut quand même qu'on comprenne que le modèle va de toute façon devoir changer, le logiciel va devoir changer. On va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. 2050, c'est demain. 2050, il y a un mur à franchir. Et je suis pas tout à fait certain qu'on soit préparé à le faire aujourd'hui.
Mais ça veut dire que, vous dites à Richard Chemla, vos millions de touristes, vous pourrez plus les accueillir demain?
Je pense que de toute façon, face aux nombreuses contraintes qui se profilent devant nous, les contraintes carbone, les contraintes sur les carburants, il va falloir se faire à l'idée que le monde d'hier n'est pas le monde de demain.
Richard Chemla?
C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Il va falloir encore une fois s'adapter, rapprendre, redoser son tourisme et encore une fois avoir un tourisme intelligent, logique. Et pour ça, c'est important l'éduquer, lui expliquer qu'il laisse le moins de traces possible. On ne peut pas demander, on est dans la transition, à une région qui vit de 40% du tourisme, du jour au lendemain, à basculer. Par contre, il faut lui apprendre à changer, à se modifier, à marquer le moins d'empreintes possible. Et ça, c'est faisable.
Et il existe d'autres formes de tourisme que le tourisme carboné, je pense qu'il faut le préciser.
Alors, parmi les traces que peuvent laisser les touristes, parfois volontairement, parfois involontairement, il y a la pollution plastique. On estime entre 8 et 14 millions de tonnes la quantité de plastique qui finit dans les océans chaque année, qui viennent d'engins de pêche, des casiers, des filets, mais aussi bien sûr de la pollution qui est produite à terre. Les bouteilles, les tongs, les pailles, enfin vous avez tous fait cette expérience vous baignant. Chercheurs et bénévoles travaillent de concert pour documenter cette pollution. Sophie Becherel, c'est le cas d'un voilier qui est présent ici, qui est au port de Nice, en face de nous. Ce bateau s'appelle Expédition Med et comme son nom l'indique, il sillonne la Méditerranée.
Oui, à la fin du mois, Bruno Dumonté et son équipage se lanceront dans leur 15e campagne à bord du Bonita, une chasse au plastique parfaitement quantifiée depuis 2010, selon un protocole précis. Ils collectent ces microplastiques qui font quelques microns à 5 mm et les résultats sont affolants.
Cet hiver, sur la campagne de 2024, on est arrivé à trouver dans certaines zones, notamment au nord du Cap Corse, des moyennes de plus de 2 millions de microplastiques au kilomètre carré. Ce qui est assez considérable parce que généralement, en Méditerranée, on est autour de 500 000, 300 000 à 500 000 microplastiques au kilomètre carré.
En Méditerranée, ce sont 130 000 tonnes de microplastiques qui arrivent chaque année en mer. Conséquence, les poissons, les tortues en ingèrent, mais en bout de chaîne, l'homme, évidemment. Avant cela, le plancton est lui aussi contaminé et colonisé désormais par ces morceaux de plastique. C'est ce qu'étudie Maria Luisa Pedrotti du CNRS.
Montrer par exemple que des bactéries pathogènes colonisent les plastiques. C'est une bactérie potentiellement toxique pour l'homme, pareil Multicus. Surtout, on le trouve dans les parcs à huîtres. Et on a montré aussi que la température, c'est un facteur qui peut aggraver sa toxicité.
La Méditerranée est une mer semi-fermée. Pays de la rive sud ou pays de la rive nord, on est donc tous concernés, insiste Bruno Dumonté. Il plaide avec d'autres ONG pour que, fort de ces données qui sont de plus en plus précises, les dirigeants des 112 pays qui seront ici la semaine prochaine s'engagent fermement à limiter l'usage du plastique.
On peut s'attendre de ce point de vue-là, Sophie, à des avancées à ce
sera
sommet
pas ici.
De Nice.
Vous savez que le traité plastique n'a pas beaucoup avancé. Ouais. Néanmoins, on peut espérer une parole forte.
Richard Chemla, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, je veux dire qu'à Nice, on a une charte zéro plastique. C'est-à-dire que l'ensemble de nos manifestations, de nos événements doivent signer cette charte et n'utilisent aucun plastique à usage unique. En tout cas, c'est très très important parce que vraiment le plastique, c'est un danger, vous l'avez souligné, au niveau de la santé. C'est un nid à microbes, un nid à virus. Sa surface elle-même est énorme. Et bien sûr ça, on l'avale. Par semaine, hein, on urine une carte plastique bancaire. Vous imaginez, c'est quelque chose d'incroyable. Donc il faut se battre sur le plastique qui vient de la Terre. Donc essayons de bloquer ce plastique qu'on utilise, je répète encore une fois, à usage unique. Parce que petit clin d'œil, moi qui suis un peu plus vieux que vous, la voiture en plastique sauve des vies par rapport à la voiture en métal.
Le plastique est un merveilleux matériau, mais vous l'avez dit, à usage unique, on s'en débarrasse.
Exactement. On est loin de la sécurité routière, on est toujours en mer, ici, mer Méditerranée, face à la promenade des Anglais à Nice. Et sous nos pieds, je voudrais qu'on termine avec ce sujet, Fabrice Pernet, des algues, et vous nous dites, ces algues, elles peuvent nous aider, en fait, et notamment à capter le CO2 qui se trouve dans l'air et qui ensuite entre dans l'océan.
Tout à fait. Donc, alors, il ne faut pas présenter les algues comme une solution, mais disons comme un levier d'action, c'est-à-dire que les algues...
C'est
comme
quoi
tout...
la différence entre une solution et un levier d'action?
Bien, c'est-à-dire que les algues ne nous sauveront pas. Et on a tendance à les vendre comme ça, les algues qui vont nous sauver du changement climatique, c'est tout à fait faux. Aujourd'hui, les ordres de grandeur ne sont pas au rendez-vous. Les algues vont permettre de nous adapter localement, d'adapter par exemple des pratiques d'élevage, par exemple liées à l'élevage des coquillages. C'est-à-dire que les algues vont créer un micro-environnement enrichi en oxygène et vont baisser l'acidité de l'eau. Mais ces effets-là seront très locaux. Les algues vont capter du CO2 de l'atmosphère, mais néanmoins pas en quantité suffisante pour quelque part changer sa teneur et lutter de manière efficace contre le changement climatique. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, pour capter à peine une gigatonne de CO2, on en émet 40 hein, aujourd'hui, mais pour en capter à peine une gigatonne de CO2, il faudrait une surface à peu près grande comme l'Europe dédiée à la culture des algues. Donc autant le dire qu'on ne le fera certainement jamais.
Il y a déjà des projets, on plante déjà des algues ?
Oui, alors il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des start-up qui se lancent là-dessus pour essayer de cultiver des algues massivement à des fins d'enfouissement et de capture du CO2. Voilà, tout ça est globalement au tout début. En fait, on est au début d'une nouvelle histoire. Mais je pense qu'il faut être là très prudent. Il ne faut pas vendre aux gens des solutions qui ne sauraient en être. En fait, il ne faut pas agiter des hochets, faire diversion, parce que finalement, ce serait un discours d'inaction climatique très dangereux.
Donc les algues peuvent être bonnes, parce qu'on parle souvent des mauvaises algues.
Alors
les algues vertes notamment, ce n'est pas les mêmes.
Alors ce n'est pas les mêmes. Ce sont des algues qui font aussi de la photosynthèse, qui luttent contre l'acidification, qui produisent de l'oxygène, c'est certain, mais qui ont la fâcheuse tendance de proliférer, de pulluler et de s'échouer sur nos rivages et d'entrer en putréfaction. Et là, ce n'est plus du tout le même processus finalement. Et là, pour le coup, elles émettent d'ailleurs des gaz à effet de serre.
Avant de parler d'une autre solution, c'est l'utilisation du fer avec vous, Fabrice Pernet. Clara Ulrich, d'un mot, quels conseils on peut donner à nos auditeurs qui aiment consommer du poisson, qui vont acheter du poisson? Vous qui êtes spécialiste de l'halieutique et de la pêche et de la ressource, quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est une question relativement difficile parce que ce qui arrive sur le consommateur, là où le consommateur a le choix, en fonction de là où il habite, il n'a souvent pas beaucoup le choix. Donc souvent, l'importance de produire, de donner du bon poisson pour le consommateur, il appartient d'abord aux acheteurs, à la cuisine collective, donc à ceux qui vont être les acheteurs et qui vont fournir le consommateur. Parce qu'ensuite, le consommateur, il n'a pas toujours le choix.
On est un peu pieds et poings liés.
On a un petit peu pieds et poings liés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur en France, à 70%, il va consommer des poissons qui ne viennent pas de la pêche française, mais qui viennent des imports et en particulier de l'aquaculture, le saumon en tout premier. Donc c'est vrai que si on a le choix, un premier geste, c'est de dire est-ce que ça vient d'une pêche européenne ? C'est le petit numéro 27, là, si on voit sur son 27, ça veut dire c'est l'Atlantique, 37 c'est la Méditerranée, et c'est le premier indicateur pour une pêche qui viendrait de pêcheries régulées de l'Union européenne.
Voilà, ça c'est peut-être le premier geste.
C'est le premier geste sur un étal de marché frais.
L'utilisation, Fabrice Pernet, je reviens vers vous, l'utilisation du fer, mettre du fer à la surface des océans. Pourquoi on fait ça et pourquoi on pourrait exploiter cette piste ? À quoi ça peut servir ?
Alors, on ne le fait pas.
On l'a envisagé
quasiment dans les années 90, je dirais, et les premières expérimentations d'envergure sur le sujet ont été faites dans les années 2010, et très vite, on s'est rendu compte que c'était inefficace. Alors, la communauté scientifique est finalement très étonnée de revoir émerger cette pseudo-solution comme moyen de lutte contre le changement climatique, parce que globalement les évidences, enfin les quelques expérimentations qui avaient été faites à l'époque n'avaient pas été concluantes, parce qu'en effet le fer, globalement, pour la faire courte, promeut globalement la croissance du phytoplancton qui va capturer du CO2 et couler dans le fond et le séquestrer durablement. Sauf que finalement, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Il y a plein d'autres effets collatéraux qui se produisent qui font que globalement, ce n'est pas forcément très efficace.
Donc ça ne marche pas, c'est une mauvaise idée.
En tout cas, on est très étonné de revoir émerger ce sujet-là dans la communauté scientifique parce qu'il y a de nombreuses publications qui montrent que globalement, ça n'a pas été concluant.
D'un mot, Sophie Bécherel, ce sommet des océans qui va réunir les Nations Unies, les pays des Nations Unies dans une semaine, est-ce qu'on peut attendre des avancées, notamment sur la protection de la biodiversité?
C'est en tout cas un des sujets au menu, les aires marines protégées, ouais. Avec des scientifiques et surtout poussés par les ONG qui réclament des aires marines protégées plus nombreuses, 30% au lieu, dont 10% strictement protégées. Strictement protégées, ça veut dire zéro pêche. On entendait ce matin dans un de nos reportages qu'en fait ça marche, puisqu'autour finalement les pêcheurs reviennent. Mais encore une fois, c'est la petite pêche, c'est vrai que ce ne sont pas les grands chalutiers. Donc ça, c'est un engagement qu'attendent effectivement les ONG.
D'un mot très très rapide, Richard Chemla.
Eh bien là, on rentre avec le bateau, on rentre sur Nice et on rentre dans l'aire marine protégée qui est en cours de création.
D'accord.
Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle, je veux dire, justement l'effet réserve. Si l'homme lève sa main, lève sa notion de pression, eh bien alors la nature est exceptionnelle. Elle va, et on le voit aujourd'hui pour le thon, elle va revenir et on va pouvoir permettre de vivre et de pêcher.
pour refermer ce 13-14 sur l'eau, je voudrais qu'on donne la parole à l'un de nos grands photographes, spécialiste de la mer également, biologiste et plongeur. Il s'agit de Laurent Balesta. Il présente 26 de ses clichés ici à Nice dans ce parcours qu'on a intitulé la baleine, 15 000 mètres carrés, c'est gratuit. C'est pendant les 15 prochains jours au sein du Palais des Expos de Nice. Et parmi les photos qu'il va présenter, celle d'une île des Philippines, dévastée par la surpêche, redevenue aujourd'hui un paradis de la biodiversité.
Ça se passe aux Philippines, c'est une petite île complètement oubliée. Vous savez, il y a plus de 1700 îles aux Philippines. L'une d'elles est devenue une propriété privée d'un couple de Français. Et cette île, elle était dévastée, elle avait subi des décennies de surpêche. Et puis ce couple de Français s'est mis en tête de protéger leur île, d'arrêter tous les saccages. Ils ont même créé 5 aires marines protégées qui a été reconnue par l'État philippin. Ils ont fait de cette île un paradis, surtout le paradis de la limule, cette créature qui est très étrange, qui paraît une créature de science-fiction, dans sa forme plus proche d'un scorpion géant que d'un homard ou d'une langouste, vous voyez, qui a des origines qui remontent au Cambrien, il y a plus de 500 millions d'années, et qui, pour autant, est bien une créature d'aujourd'hui. Alors j'y vois un très beau symbole dans cet animal qui est pas un animal performant, pas un animal ultra spécialisé, mais un animal d'une grande robustesse. Et ça aussi, c'est un beau symbole de ce que doit être aujourd'hui nos sociétés. Ça ne doit plus être des sociétés de performance. Ça doit être des sociétés robustes et de résistance.
Les photographies de Laurent Balesta à voir à la baleine à Nice jusqu'au 13 juin. On a retrouvé beaucoup de vent ici à bord du Tétis 2 en approche du port de Nice. Je voudrais remercier toute notre équipe qui nous a permis de réaliser ce 13-14. Encore une fois, exceptionnel. La joie du bateau qui m'accompagne, ça fait toujours plaisir. Éric Gérard, notre chargé de production. Julien Girard, Benjamin Reyes à la technique. Cécilia Arbona à la rédaction en chef. Claire-Sophie Collet, notre chargée de programme. Sophie Becherel pour ses reportages et l'aide à la préparation et tout l'équipage du Tétis emmené par son commandant Clément Schneider.